What do you want? Information.
Mais sans blague, vous trouvez pas que c'est paradoxal?
Ouais, c'est pas faux.
So say we all.
So say we all.
All this already happened.
Yes.
So this conversation we're having right now, we already had it.
Yes.
Then what am I gonna say next?
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans l'épisode 16 de Un épisode et j'arrête, le podcast 100% série de l'Association française des critiques de séries, l'ACS, en partenariat avec Binge Audio. Une demi-heure de débat autour d'une série et d'une thématique pour faire, défaire, applaudir ou aplatir une œuvre dans la joie critique et la bonne humeur journalistique.
Next one.
That's the last one.
Pierre Langlais de Télérama pour vous servir, et avec moi cette semaine, Constance Jamais du Figaro. Bonjour Constance.
Bonjour Pierre.
Olivier Joyard des Inrocks. Salut Olivier.
Salut Pierre.
Et Benjamin Faux de Studio Ciné Live. Hello Benjamin.
Bonjour.
Un menu citoyen dans cette émission, puisque nous allons discuter d'un sujet d'actualité à moins de deux semaines du premier tour de l'élection présidentielle. L'impact des séries sur notre vision de la politique et notre réflexion politique, aussi bien via les séries politiques elles-mêmes, à commencer par les françaises, le peu qu'il y a en tout cas, que dans l'ensemble de la production. Peuvent-elles nous influencer? Y a-t-il des séries de gauche et des séries de droite? On vote tout de suite dans un épisode et j'arrête.
Des centaines de milliers de kilomètres en avion, en train, en voiture, pour en arriver là. Et tout jouer sur un coup. Tapis.
Francis, il n'y a pas 50 solutions. Soit t'es un sphinx, distant, impérial, soit tu le chopes par le callback et tu le bastonnes jusqu'à ce qu'il pisse le sang.
Ouais, dans les deux cas, on dira que je suis arrogant.
Et alors?
Eh ben alors, toujours pareil, arrogant, méprisant, prétentieux.
C'est merveilleux.
Ah bon, c'est merveilleux.
On te demande d'être le meilleur, mais il faudrait que tu restes modeste. Ça n'existe pas. Ce qu'ils veulent les gens, c'est un patron.
Un petit extrait de Baron Noir diffusé l'an passé sur Canal+, un rare exemple de série politique française. Soyons chauvins, chers amis, pour commencer. Le genre est-il, chauvin, en même temps on va peut-être mettre une balle dans le pied direct, le genre est-il toujours sous-exploité par la télé hexagonale, Benjamin?
Alors c'est vrai qu'on a vécu 2-3 années assez fastes vu de l'extérieur, avec plusieurs séries qui étaient calibrées, présentées comme des séries politiques. Les Hommes de l'Ombre, on a eu Baron Noir, on a eu quand même pas mal. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que pour moi, ce sont tout simplement pas des séries politiques.
Alors tout on simplement. Pose une problématique grave d'entrée de jeu là.
Voilà, parce que c'est quelque chose qui revient dans tous les débats, je pense. Pour moi, il y a vraiment deux sens au mot politique. Il y a la politique comme
sujet de
société, c'est-à-dire la façon dont on fait en sorte que les gens arrivent à vivre ensemble. Et il y a une deuxième politique, un deuxième sens au mot politique, qui est la façon d'acquérir le pouvoir et de le garder. Et ce deuxième sens, il est par contre, il est partout, dans toutes les séries quasiment. Dans ce sens-là, ces séries sont des séries politiques. Mais Breaking Bad est aussi une série politique.
On va parler de cette nuance entre une série qui a un propos politique, c'est-à-dire qui dit quelque chose de la société, et une série qui parle de la politique et qui met en scène les politiques. Malgré tout, je repose ma question, Constance, Olivier, est-ce que quand même on est sorti un petit peu du vide qu'il pouvait y avoir et on commence à pouvoir faire des séries politiques françaises? Constance.
C'est sûr qu'entre Baron Noir, Les Hommes de l'Ombre et a priori Marseille avant qu'on l'ait vu, parce qu'une fois qu'on l'ait vu, on s'est rendu compte que c'était tout sauf une série politique. Et d'ailleurs, Dan Franck nous a dit que ça n'avait jamais été une série politique, c'était nous qui avons halluciné collectivement, mais ça c'est un autre point encore. On peut dire qu'entre 2 et 3 séries politiques sur 18 mois, c'est bizarre, c'est la grande abondance. Mais je pense qu'il faut pas non plus avoir la mémoire trop courte. La politique, il y a eu des séries politiques auparavant qu'on a oubliées parce qu'elles étaient peut-être pas très bonnes. Je pense à L'État de grâce sur France 2 avec Anne Consigny qui était très soap, mais c'était quand même au départ présenté comme une série politique. Et je pense qu'il faut aussi dire que la politique, c'est peut-être, chez nous, on l'a peut-être mieux traité par l'unitaire. Je pense à L'École du pouvoir qui racontait de manière très romanesque la promotion Voltaire. Et aussi, le téléfilm que j'avais trouvé très beau, la dernière campagne, où Jacques Chirac apparaissait en rêve à François Hollande et lui dictait comment faire sa campagne. Est-ce que nous, on n'a pas plus de facilité à faire un unitaire dans un univers très clos, sans trop de questions de suspense, sans trop prendre parti? Traiter de la politique, on sait le faire. En série, on sait peut-être moins faire.
Mais c'est vrai ce que dit Constance, parce que, par exemple, Serge Moati fait beaucoup de documentaires sur la vie politique française. C'est quand même un genre hyper répandu. On parle de politique tout le temps. Il y a des débats politiques. Enfin, c'est vraiment un...
Ah, les Français aiment la politique.
Culture. Il y a et c'est vrai qu'il y a une scission absolue. Et même dans le cinéma, et c'est pour le coup, les cinémas et les séries sont un peu dans le même bateau sur cette question. On a un manque de discours et de point de vue, en fait, sur cette question-là. Peut-être aussi parce que une série sur la vie politique, une fiction sur la vie politique, c'est pas du tout la même chose qu'une fiction politique. Enfin, ça, vraiment, je crois que la distinction qu'a fait Benjamin est assez nette de ce point de vue-là. Et puis, voilà, je pense qu'il y a aussi une tradition héritée peut-être de l'ORTF qui dit que parler de politique, c'est un peu dangereux, notamment en période d'élection. On a vu ce qui s'est passé récemment à France 2 où une pastille comique a été supprimée pour des raisons encore un peu obscures, mais qui paraissent évidentes à tout le monde. Ça n'est pas une série, mais voilà, la vraie... série politique qui est un peu noire et complexe des dernières années, c'est Baron Noir, c'est sur Canal+, voilà, peut-être pas de hasard.
Et tu parlais de tradition, c'est vrai que on peut remonter bien plus. Alors, est-ce qu'il y a une tradition, plutôt que de nous comparer tout de suite aux Américains, est-ce qu'il y a une tradition en France de la fiction politique? Après, on pourrait se dire, oui, enfin, il y a des grands romans, enfin, on en a des kilos des textes politiques. Qu'est-ce qui fait que les Américains ont pu faire, alors, outre évidemment la qualité de leur télévision en général, on peut faire à la Maison Blanche et que nous, finalement, ce qui se rapproche de plus de la Maison Blanche en France, c'est Baron Noir, et on n'y est pas encore, et c'est pas une série qui va aussi profondément parler de politique comme pouvait le faire la Maison Blanche. Benjamin.
À la Maison Blanche, pour le coup, c'est peut-être une des seules séries qui a un propos ouvertement politique militant, c'est-à-dire vraiment qui véhicule une vision du monde politique et un discours. En France, c'est strictement impossible d'avoir ça. Par contre, on a eu quand même de grandes séries, pas seulement des unitaires, des grandes séries sociales. On parlait de Moati, Le Pain Noir. Dans les années 70, c'était l'ORTF encore. C'est une grande série sociale avec des problématiques, certes historiques, mais politiques.
Je pense à Des Vivants et des Morts, hein, de Mordillat, qui était une mini-série aussi, qui était pour les ouvriers sur la fermeture d'une usine, si je dis plus de bêtises. Constance, tu allais réagir à cette question?
Moi, j'allais peut-être faire une digression. Je pense que là où les Américains ont beaucoup de facilité, c'est que c'est la première puissance mondiale. Et je pense que les coulisses du pouvoir de la Maison Blanche sont plus à même d'attirer un plus large public. Nous, qu'est-ce qu'on a à vendre avec une 5e République?
Mais on voit à quel point le public, généralement, est fasciné par tout ce qui se passe dans les coulisses de la vie politique française.
Que c'est plus facile de mettre du glamour à la Maison Blanche que dans nos institutions à nous. Par exemple, j'attends de voir une grande fiction sur les dessous de la Commission européenne. Dieu sait qu'il y a des choses à dire.
Ah oui, ça pourrait être intéressant. Pour revenir à ce que tu disais, Benjamin, est-ce que Baron Noir, dans ce cas, est une série politique? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un propos politique dans Baron Noir?
Alors,
à mon sens, oui et non.
Baron Noir, c'est un peu, c'est limite, mais c'est vraiment le seul cas en France où on est vraiment à la limite, parce que le personnage principal a vraiment incarne une pensée politique.
Joué par Cadmérade, donc.
Par Cadmérade, et il incarne une pensée politique en plus de
cette ouvrière, tradition ouvrière,
exactement, qui dépasse. En tout cas, à mon avis, qui dépasse son parcours politique au sens électoral. Donc, effectivement, on a vraiment un personnage principal très construit et qui possède vraiment une parole politique.
Ce qui est déjà mon début, Olivier.
Mais c'est aussi une série qui parle de la fin d'un monde politique et d'une sorte de perte de sens de la politique, qui est quand même un truc ultra contemporain. En ça, c'est une vraie série qui observe la France d'aujourd'hui, donc c'est une série politique. Et le fait qu'elle parle d'hommes politiques également est une sorte de plus, un doublon, je dirais. Mais moi, c'est ça surtout qui m'intéresse dans Baron Noir. C'est pas les opinions forcément du héros. Moi, je trouve que dans ce cas-là, Plus belle la vie est une série politique plus progressiste que toutes les autres qui sont diffusées en France aujourd'hui.
Oui, au fond, dans ce cas-là. Dans ce qu'elle véhicule.
Oui, enfin, il y a des. En tout cas, c'est une série plutôt. Quand je dis progressiste, c'est au sens de la gauche progressiste, disons. C'est
Messieurs,
une série qui parle d'homoparentalité, de beaucoup de sujets de société.
À mon sens, Plus belle la vie est la série la plus politique à la télévision française. Mais c'est vraiment une politique
Constance
de proximité.
Dans ce même sens, moi, je voudrais dire que Fais pas ci, fais pas ça, c'était quand même très politique. Et d'ailleurs, dans la dernière saison où ils ont voulu faire une projection dans le futur, ils ont bien disséminé des éléments politiques complètement fictionnels, parce que c'était une présidence hulot-écologiste. Mais finalement, est-ce que les séries les plus politiques, c'est pas plutôt des séries sociales qui reflètent la société, avec en ricochet des conséquences, des intrigues secondaires, des personnages secondaires politiques, qu'une série 100% politique qui risque d'être aride et peut-être un peu déprimante et décourageante.
Surtout, ce que disait Constance tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de, vraiment de théâtre du pouvoir en France.
Oui, j'allais dire ça. Qu'est-ce que les Anglais, les Américains savent faire avec leur système, avec le système politique français?
Il y a une tradition du cinéma américain qui a été repris dans les séries de montrer les hommes politiques et la politique de, voilà, depuis Capra, c'est quand même très, très prégnant. Et ensuite, il y a, tout le versant parodique, en fait, de Saturday Night Live depuis les années 70, qui aujourd'hui essaime toute la création culturelle contemporaine aux États-Unis, en fait. Donc, et puis, je sais pas, une
Jusque
série comme
Parks and Recreation, VIP.
Même si elle est adaptée d'une série anglaise, elle aurait jamais existé sans SNL, enfin, pour moi, en tout cas.
Et les Anglais ont une tradition aussi de satire extrêmement violente. Ouais. Depuis les années 80, peut-être même avant, The New Statesman ou des séries comme ça, c'était vraiment des charges, mais au vitriol, sur des hommes politiques. C'est impossible à faire en France.
Alors, on se demande souvent quelle posture doivent avoir les médias quant à leur position politique. Il y a autour de cette table Le Figaro, Les Un Rock ou avec moi-même Télérama qui n'ont pas forcément les mêmes lignes éditoriales. Les séries doivent-elles ou peuvent-elles pencher aussi vers un camp ou vers l'autre et avoir une ligne éditoriale ou doivent-elles d'ailleurs, Aaron Sorkin clairement n'était pas un pro-républicain. Est-ce que, alors là je pose la question mondialement parce que c'est vrai qu'en France ça semble être encore plus difficile. Est-ce que finalement quand on parle de politique, eh bien il faudrait peut-être être politique, Olivier?
Être politique, c'est pas tout à fait la même chose que de choisir un camp en politique. Donc être politique, c'est respirer un point de vue sur le monde et sur la société. Donc ça, pour le coup, on n'est pas obligé d'être de gauche ou de droite. Enfin, il n'y a pas de vertu particulière sur cette question-là. Par contre, c'est vrai que on peut dire que la plupart des séries qui traitent de la politique vraiment, en général, sont plutôt des séries de gauche, je dirais. Enfin, je suis pas complètement certain, mais
on a accusé House of Cards d'être plus réac, mais en fait, c'est...
Ouais, je sais. Ouais. House of Cards est un peu nihiliste d'un certain point de vue, donc c'est vrai qu'elle
plus
dépasse les.
C'est shakespearien que politique maintenant. C'est devenu le véhicule de Kevin Spacey pour faire du Shakespeare à la caméra.
Ouais, c'est ça.
Donc les Françaises, hein, j'avais fait
une
petite
série de gauche, pardon, excuse-moi, mais Plus belle la vie, voilà. Je me répète, mais c'est vraiment une série de gauche pour moi.
Dans ma liste de séries françaises, j'avais mis politique, j'avais mis Barre en Noir, Les Hommes de l'Ombre. On n'a pas reparlé d'eux, mais finalement, qui est tout sauf une série politique. Enfin, c'est-à-dire, pour le coup, là, on ne parle pas vraiment de politique. C'est vraiment les coulisses du pouvoir transformées en soap-opéra thriller.
Il y a ça. Pas de. Il y a un moment, par exemple, où on parle un tout petit peu de la répartition des. De la façon de voter, enfin ils changent le.
Oui, ils veulent faire de la proportionnelle.
Exactement, ils veulent faire de la proportionnelle. Mm-hmm. Mais c'est uniquement, évidemment, pour contrarier quelqu'un dans ses plans. C'est pas du tout pour une raison idéologique.
Justement, on parle des Hommes de l'Ombre.
C'est pas toi qui m'as appris que la politique c'était pire qu'un combat de catch, l'art de la mise au tapis?
Pour certains, ouais. Pour toi aussi, visiblement. T'aurais pu choisir un combat plus noble.
Simon, j'ai 15 ans de moins que toi. Tu peux admettre qu'on ait des conceptions divergentes du métier? Je vois plus la communication comme toi, comme tu me l'as apprise. Aujourd'hui, la com, c'est à la fois de la pub, de l'économique, du politique, du sociétal, de la presse. C'est la rencontre de tout ça. C'est un univers.
Ah ouais?
Ouais, c'est un univers, ouais. Une galaxie, si tu préfères. Il y a des planètes qu'il faut relier les unes aux autres. On est là pour ça. Comme des électrons libres.
Mais un électron, ça n'existe pas sans noyau. La communication, quand tu mélanges tout, ça donne exactement ce que t'es en train de faire. C'est du vide, c'est du creux, c'est du rien.
Est-ce qu'on a peur, finalement, en France, de faire de la politique? Est-ce qu'il y a une censure? Est-ce qu'on veut être politiquement correct? On parlait rapidement de l'ORTF tout à l'heure, on n'y est plus tout à fait. Est-ce qu'on a peur de perdre son job si on déplaît un patron de chaîne qui serait très proche de tel ou tel parti, ou peur concrètement du pouvoir en place? En gros, est-ce que en France, c'est difficile de faire de la série politique pure et dure parce que le cadre ne s'y prête pas? Benjamin?
Je pense effectivement qu'en France, pour un scénariste de série, le premier public, ça va être le diffuseur, le décisionnel. Si le scénariste veut gagner sa vie, il faut que le diffuseur accepte sa copie. Et évidemment, il écrit plus avec le diffuseur en tête que ses propres désirs quasiment d'écrivain. C'est différent si on est auteur de littérature. On n'a pas forcément un grand public, mais on a beaucoup plus d'éditeurs, donc de diffuseurs potentiels.
Olivier, est-ce que c'est compliqué?
Je crois pas à la censure, je crois à la complexité de toute façon de faire une série qui parle de la France en France. Enfin, je veux dire, c'est que déjà ça c'est la base quoi.
On revient à plus belle la vie encore.
Évidemment, qu'on n'en est pas là où on en était il y a 10 ans. Oui, bah oui. Mais c'est bon, c'est vrai. Hein.
Ouais.
Ils occupent le terrain d'un certain point de vue, sont là tous les jours, ils regardent ce qui se passe. Pour les autres et les séries, disons où l'ambition artistique est peut-être plus affirmée que dans Plus belle la vie. C'est vrai que à part Baron Noir, dont on sait que c'est une série qui est compliqué à écrire et parce que la politique est complètement folle en ce moment. C'est-à-dire que ça aussi, c'est quelque chose d'autre qu'on peut dire. Le plus grand danger pour les scénaristes de séries politiques aujourd'hui, c'est pas le pouvoir en place, c'est que le réel est plus intéressant que la fiction en ce moment. Donc, écrire une fiction à la hauteur, moi, ça me paraît ultra difficile. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire pour leur nouvelle saison, la deuxième saison, mais là...
ils vont laisser passer la présidentielle, je pense. ça devrait se calmer derrière. Est-ce que le polar peut être... Le polar devrait être le genre politique par enfin, engrenage, après tout, parle de la société française en pointillé. Ça devrait être le genre qui observe de plus près notre société et du coup le genre le plus politique. Constance ? Oui. Non, Olivier, vas-y, je t'en prie.
Vas-y, Constance.
Vas-y.
Non, mais moi, je trouve que Engrenage m'intéresse plus depuis qu'elle est devenue une vraie série avec des, enfin, en gros, les éléments romanesques de la série m'intéressent beaucoup plus que tout ce qui peut avoir trait avec la réalité sociale française, que je trouve pas toujours extrêmement fin. La grande série, c'est totalement bateau de dire ça, mais qui a parlé de politique dans un contexte, à la fois avec un personnage d'homme politique et des éléments politiques dans vraiment c'est The Wire, enfin où il y avait Carchetti qui était le jeune politicien aux dents longues qui devient maire de Baltimore. Ça c'est vraiment un exemple assez unique parce qu'il y avait une ampleur chorale en fait dans l'approche de la politique dans la fiction.
Ou American Crime aujourd'hui aux États-Unis en ce moment à la télévision, d'une manière sans doute plus fortement romanesque, mais en tout cas penchée sur les problématiques de la société américaine. Est-ce qu'on se prive, parce que clairement on va pas se voiler la face, on a quand même parlé de Baron Noir, on a essayé de parler de la télévision française, mais on n'est pas des Américains, enfin on n'est pas des fans de l'Amérique et on n'aime pas la France, c'est juste qu'on est sans cesse poussé à aller citer des exemples américains, à la limite des fois des exemples anglais, parce qu'on a du mal à trouver des exemples français. Est-ce qu'on se prive d'un outil démocratique, si je veux dire? Est-ce que la série télé pourrait être un outil? On est en période électorale, est-ce que la série télé pourrait ou devrait se mêler du débat politique, selon vous? Là, on est dans de la théorie, mais après tout, est-ce qu'elle l'a peut-être fait dans le passé, ou est-ce qu'elle doit le faire, ou est-ce qu'elle devrait le faire? Constance?
Je méfie beaucoup de l'expression « devoir ». Je suis pas sûre qu'il faille donner des leçons. Moi, personnellement, pour revenir à Aaron Sorkin, j'ai eu du mal à digérer The Newsroom à cause de ça. Je pense que la télé, ce qu'elle a mieux à faire, c'est de montrer la société telle qu'elle est. Et par exemple, moi, je trouve que la série politique la plus intéressante que j'ai vue, c'est il y a 3 semaines, Héroïne sur Arte, où il y a une intrigue secondaire très proche du film de Lucas Bellevaux, où on voit une des ouvrières qui est d'origine maghrébine et qui se retrouve à militer pour un parti dont on devine être un ersatz du Front National. Et à la rigueur, moi, je préfère une série sociale qui montre des réalités politiques qu'on n'a pas forcément envie de voir, mais je veux pas qu'on me dicte ce que je dois penser. Et je trouve que si on fait ça, c'est se tirer une balle dans le pied.
Je suis vraiment d'accord avec ça. Je trouve que c'est ce qui manquait, par exemple, à Baron Noir dans la première saison, c'est de prendre au sérieux le Front National, par exemple, ou qui est vraiment un élément. Enfin, je trouvais que ça, c'était quelque chose qui était absent quasiment du paysage des conversations entre les personnages, et qui me semblait que c'était très étrange de choisir de faire une série politique sans le Front National aujourd'hui.
Oui, alors c'est Marseille qui a annoncé qu'en saison 2, il y aurait une candidate Front National.
Top.
On ne sait pas, hein. Ça se trouve, ça sera chouette. Faut pas se griller d'entrée de jeu. On pourrait avoir une bonne surprise.
En fait,
On a beaucoup critiqué les séries américaines quand on a eu l'impression que l'ère de à la Maison Blanche était loin derrière nous, The West Wing, et que l'ère du cynisme et de l'obscurité l'avait emporté. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce débat-là? Et est-ce que vous avez l'impression, finalement, comme certains ont pu le dire, que c'était une vision de la politique qui a peut-être plus servi les populistes comme Donald Trump, et que finalement a trop montré les hommes politiques cyniques, eh bien, on a coupé l'envie aux gens de participer au débat. Moi, je dis toujours, je regardais à la Maison Blanche, j'avais envie d'aller voter derrière, comme quand on regarde Roland Garros à la télé, on a envie d'aller taper la balle derrière. Ça donnait envie de participer au débat démocratique.
Mais on s'arrête au bout de 2 semaines en même temps. Quand
ouais,
on
parce qu'on
le tennis,
on s'est fait mal au cou. Oui, mais on y allait quand même, on y allait. Non, mais quid de ce débat du cynisme apparent, en tout cas, des séries politiques?
Moi, j'ai un peu du mal à y souscrire parce que je pense que les gens qui ont voté Trump, c'est pas forcément des gens qui ont regardé la Maison Blanche à House of Cards. Et je pense que si Trump a bien réussi, c'est d'abord qu'il était bien établi dans les médias et qu'on lui a quand même régulièrement invité parce qu'il faisait le show à lui tout seul. Et c'est cette exposition médiatique plus que le reflet fictionnel qui l'a aidé. Et au contraire, je trouve qu'il y a des fictions américaines qui sont plus ou moins politiques, on pourra en discuter, comme Designated Survivor ou Madame Secretary. Ou à l'inverse,
qui se passe dans le milieu de la politique,
quoi. Dans le milieu politique, avec des héros politiques qui sont au contraire des idéalistes, qui veulent tout changer, tout purifier, avec des gens, en l'occurrence, dans ces deux séries, qui au départ n'auraient jamais dû se retrouver en poste au pouvoir. Donc je trouve qu'accuser les séries, c'est un peu facile.
Ah oui, en toute chose d'ailleurs, Olivier.
Bah non, mais par exemple, on n'a pas parlé de VIP, qui est quand même la grande série. On va en parler, Olivier.
Ah d'accord, c'est au menu.
Je me tais.
Pas de problème. Et on va écouter justement une autre série qui a voulu rire de la politique.
Aujourd'hui, nous recevons Pierre Hainaut, candidat à la présidentielle. Bonsoir, monsieur Hainaut.
Bonsoir.
Il y a deux mois encore, personne ne vous connaissait, mais depuis la fermeture de l'usine de Saint-Nicolas, votre commune, la campagne que vous menez semble connaître un coup d'accélérateur.
C'est une matière brute, ce type, c'est une pépite. On n'a plus qu'à sculpter, nous. Si on bosse correctement dans un mois, Pierre Hainaut, c'est le troisième homme, merde.
Il faut ramener la politique dans la cité. Et c'est ça qui me donne aussi aujourd'hui envie de m'engager.
333 réformes pour changer la France et remettre l'homme au centre, mais non, c'est tout un programme.
Ce qui est important, c'est l'histoire qu'on doit raconter.
Il est lisse comme une moule.
Dans les moules, parfois, il peut y avoir une putain de perle.
Une bande-annonce de Hainaut Président, la comédie de Michel Muller, alors dans sa version film hein, en l'occurrence, mais elle a d'abord été une série. On a parlé de la difficulté de parler de sérieusement, de politique. Est-ce que c'est encore plus dur de faire rire, Olivier? Tu voulais parler de VIP, ça va être le moment de le faire. Commençons par la France, parce que c'est vrai que passer Hainaut Président, qui a été une série courte, hein, des comédies, on a cité l'état de grâce tout à l'heure, c'était quand même pas une grosse comédie. Pourtant, enfin, on est le pays de plein de caricaturistes, de comiques qui s'attaquent très bien à la politique. Pourquoi on n'a pas de série comique politique? Pas encore, parce qu'OCS en prépare une qui s'appelle French Touch, alors on n'a pas pu la voir pour l'instant. Mais peut-être que ça sera l'occasion de rire de la politique. Olivier.
Ah, moi.
Bah oui. Pourquoi on ne sait pas rire de la politique en France?
Franchement, c'est un mystère de savoir pourquoi dans les séries, peut-être une question de format, parce qu'il n'y a pas de 26 minutes et que c'est peut-être un format qui est plus adapté, parce qu'il n'y a pas de séries comiques et drôles en général, enfin, il n'y en a pas énormément.
Très peu, oui.
Et celles qui ont été mises à l'antenne ne parlaient pas vraiment de politique. Donc, moi, je crois, enfin, voilà, c'est ce type d'explication-là. J'en ai pas beaucoup.
Alors que les Anglais et les Américains, c'est la
question. Parce qu'on a une tradition satirique, mais en même temps, on voit, elle est quand même moins importante et centrale aujourd'hui, je trouve, dans la vie de la culture qu'elle est aux États-Unis ou en Angleterre. Donc, on n'a pas de VIP en France, par exemple. Et on n'a pas de quelqu'un qui soit capable d'avoir une puissance de dérision comme ils en ont une aux États-Unis.
Alors, qu'est-ce qu'une série comme Parks and Recreation ou VIP, dans deux tonalités différentes, peuvent apporter au débat, à la vision que le téléspectateur peut avoir de la société et quelque part faire réfléchir politiquement parlant.
Parks and Rec, pour moi, c'est un peu j'ai un petit problème avec en tout cas le côté politique de cette série, parce que c'est pour moi c'est vraiment une interprétation de la politique comme un petit groupe quasi familial qui réussit à faire marcher les choses malgré l'opposition. En quelque sorte, ou
c'est de la politique locale. Donc
voilà, c'est la politique locale et la politique, en tout cas la politique américaine est vue comme un frein. En fait, c'est des ressorts qui sont vraiment des ressorts type The Office où c'est quasiment un noyau familial de sitcom qui arrive à s'en sortir.
Ah, moi, c'est marrant ce que j'ai vu par Parks and Recreation, au contraire, comme une série qui était plutôt qui véhiculait un message positif,
ah, très positif,
d'optimisme et de foi en la politique,
c'est-à-dire
que les
local.
Choses peuvent changer à un niveau local.
Et aux USA, c'est très compliqué. L'opposition entre le local et le fédéral est quelque chose d'assez compliqué.
Et Olivier, puisque tu voulais parler de VIP, qu'est-ce que VIP on en vient presque à te demander si finalement la série politique la plus politique du moment, c'est pas celle-là.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est celle qui montre à quel point la politique est une sorte de cirque dont on peut rire d'un certain point de vue et en même temps qu'il faut la prendre complètement au sérieux parce que ce personnage, je trouve qu'on est toujours entre les deux en fait, même si c'est clairement une satire, on voit c'est-à-dire que je pense qu'elle va paraître un peu sobre en fait dans la nouvelle saison en avril par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui aux États-Unis et ça c'est assez puissant quand même d'arriver à avoir anticipé quasiment le réel comme elle l'a fait. Et maintenant de pouvoir peut-être faire une sorte de un accompagnement, enfin je suis très très impatient moi de voir.
ce que les séries vont pouvoir faire.
Oui,
et d'autres. Et
par
d'autres,
rapport à Trump et par rapport à toute la... Pour les autres, il y a eu un épisode de Blackish assez génial sur la question, il y a un mois et demi, sur l'élection de Trump. Enfin, l'élection de Trump est centrale partout. Hein, dans The Good Fight commence par le discours.
Donc le spin-off de The Good Wife, autre série qui avait aussi des choses à dire d'un point de vue politique.
Oui, évidemment, c'est vrai que Trump est devenu un sujet. Et là, pour le coup, c'est la puissance des séries américaines, c'est de pouvoir réagir deux mois, trois mois après. Et en France, là, ça sera en 2018-19. Quoi, je pense.
Ah, Constance, si Plus belle la vie arrive à réagir immédiatement.
Exactement. Constance, pour rebondir sur ce que Olivier avait dit là, c'est d'ailleurs le dernier point qu'on abordera. Qu'est-ce que les séries peuvent faire face à ce que la réalité est en train de nous imposer, j'allais dire. C'est-à-dire que aussi bien d'un point de vue comique que d'un point de vue tragique, là quand même, les scénaristes de séries politiques vont devoir être sacrément inspirés pour trouver pire ou plus intéressant ou plus accablant que ce qu'on peut voir dans plusieurs endroits du monde, y compris chez nous.
Leur problème à eux maintenant, c'est que la réalité a rattrapé la fiction. J'ai envie de dire, ils pourraient tout faire vu tout ce qui est en train de se passer en Angleterre, aux États-Unis, chez nous, tout est possible. Tous les rebondissements, même les plus inimaginables, sont plausibles après tout. Et en même temps, une série politique, c'est souvent ancré dans le contexte dans lequel on écrit et j'aimerais pas être à leur place.
Benjamin, un mot là-dessus ?
Là, je pense que c'est trop tard. Faut attendre un peu. En tout cas, on est trop loin dans le n'importe quoi. Faut attendre que ça retombe un peu et que on reprenne sa respiration. Et il y aura des fictions forcément dessus. Et voilà, mais
il va falloir attendre que tout ça se décante. Mais c'est bien le problème d'ailleurs de la. Enfin, c'est un des nombreux problèmes de la télévision française, c'est qu'effectivement, comme on le disait, là où les Américains vont réagir très très vite et pouvoir, au bout de, allez, un mois, deux mois, trois mois.
La France de 2017 en 2020, quoi. Je pense à la télé. À part Plus belle la vie.
Et côté presse.
Libération, grossesse nerveuse à l'Élysée, Le Figaro, un enfant dans le dos de la République, Le Parisien, la France enceinte, qui va payer ? J'ai déjà recensé trois éditos qui parlent de démission. Ils sont déchaînés.
Un petit extrait de l'état de grâce, ça se trouve encore ce genre d'extrait-là. On en a parlé tout à l'heure de cette série qui avait été diffusée sur France 2. Allez, assez causé, c'est au tour du public d'un épisode et j'arrête de voter. Vous pensez que les séries n'ont pas leur mot à dire en politique ou que nous aurions dû parler du côté réac des polars façon Esprit criminel, l'unité sans frontières ? Ça, on n'a pas eu le temps de le faire. C'est vrai qu'on aurait pu. La parole est à vous. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Si on considère la politique comme finalement quelque chose qui nous amène à choisir un monde plutôt qu'un autre, je trouve que la série Tripalium, diffusée sur Arte, qui nous montrait une vision alternative du monde dans lequel on vit, est éminemment politique. Et je rebondissais sur la dernière question que tu posais. C'est peut-être finalement dans cette anticipation et dans la science-fiction qu'apparaissent finalement les nouvelles scénarisations d'une série politique.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de science-fiction. Tu fais bien de la porter. C'est vrai que c'est.
On aurait peut-être pu parler de Black Mirror dans ces cas-là.
Absolument, et de beaucoup d'autres. Hein. Battlestar Galactica, qui était une série politique qui disait beaucoup de choses de l'Amérique de l'après-septembre. Donc très très juste intervention. C'est peut-être là qu'on trouve un espace de liberté. Je parlais de censure, etc. C'est dans des histoires qui sont très innocemment dans le futur. Hein. Donc c'est pas notre société, c'est un autre monde.
Quand même, dans Trépalium, ça se voyait un peu que c'était. Une métaphore du monde dans lequel.
Oui, mais justement, mais c'est un moyen de contourner peut-être certaines censures.
C'était en même temps pas complètement réussi, je trouvais, sur le courant de toute la saison. Et du coup, c'est-à-dire qu'à force de faire des tentatives qui sont à moitié réussies, je sais pas si on va arriver à imposer vraiment un style et un point de vue, quoi. C'est ça qui est un peu. Mais ça, c'est un problème de récurrence qu'il y a beaucoup aussi à la télévision française et peut-être d'auteurs qui sont. Habité par des points de vue politiques, et donc ça, avoir un point de vue sur le monde aussi puissant que des grands auteurs américains ont parfois en ce moment, c'est complexe, quoi.
Et bien on terminera là-dessus ce 16e épisode de Un épisode et j'arrête, le podcast de l'ACS, l'association française des critiques de séries, en partenariat avec Binge Audio. Merci à Constance Jamais du Figaro, Olivier Joyard des Inrock et Benjamin Faux de Studio Ciné Live. Merci aussi à toute l'équipe de Binge Audio et en particulier à Jules Cros à la technique. Merci enfin à vous, le public de l'antenne ici dans le 11e arrondissement parisien, pour votre soutien et votre patience. Merci. L'association française des critiques de séries est sur Facebook et Twitter, tout comme Un épisode et j'arrête. Vous pouvez suivre nos comptes, commenter, liker, tout ce qui va avec. La semaine prochaine, eh bien, la semaine prochaine, je ne sais pas ce qu'on fera, puisqu'un épisode et J'arrête s'enregistre une fois par mois, quatre émissions à la fois, et que la semaine prochaine, ça sera la prochaine session. On espère, quoi qu'il en soit, vous y voir. N'hésitez pas à venir, c'est super sympa. Et vous pourrez, vous aussi, prendre la parole. Une dernière chose, le festival Sérimania débute le 13 avril, c'est jeudi prochain. La CS y sera, on sera ravis de vous y croiser. Rendez-vous au Forum des Images. Salut à toutes, salut à tous, et à la semaine prochaine.
Next one, next one, next one.
Whoa, wait, 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 wait.